supplémentaires qui ont été proposés. Je vous remercie et je remercie les 6 délégations qui ont fait des déclarations qui nous soutiennent sur plusieurs points abordés au cours de la séance de l'après-midi. Et je sais bien qu'à mesure que nous aborderons les points individuels au titre de l'ordre du jour, les collègues interviendront, mais peut-être pourrais-je en reprendre quelques-uns de ces points, parmi lesquels, de toute évidence, une insistance sur le bilan, sur une gestion axée sur les résultats et le soutien pour présenter un calendrier très clair. Les États-Unis ont insisté. Beaucoup de délégations le reprendront à leur compte si elles ne l'ont pas demandé spécifiquement. Nous sommes sur le point de réagir. Lors de la précédente réunion du comité, nous devions reprendre le projet qui était en attente de façon à pouvoir refléter les questions plus générales dont nous avons parlé, certainement l'année dernière au sein du comité exécutif, mais aussi pour chacun des segments du comité permanent, en nous assurant que nous ayons à la fois le pacte mondial, les réformes des Nations Unies, la réponse générale et quelques processus, notamment parce que nous parlons des réformes intérieures du HCR et nous avançons de façon plus ferme vers les opérations pays pour ce qui est de notre activité, ce qui est un changement majeur qui n'était pas en vue lorsque nous avons démarré ce processus il y a 2 ans. Si vous voulez bien faire preuve d'un peu plus de patience, nous vous proposerons effectivement un échéancier d'ici la fin de l'année. Vous verrez à quoi cela ressemble d'aller de l'avant, mais compte tenu de la transformation complète que nous escomptons, ce ne sera pas terminé immédiatement ou rapidement. Néanmoins, nous tenterons de procéder par étapes de façon que vous puissiez observer les changements et en termes de métamorphose par étapes, comme je vous le disais, compte tenu des changements internes, notamment en ce qui concerne la décentralisation et la régionalisation. Le commentaire des États-Unis m'a particulièrement plu pour ce qui est de la gestion des risques, quant à la nécessité de réduire les risques, tout en notant qu'il n'y aura jamais de risque zéro. De toute évidence, il y a une contradiction inhérente entre une tolérance zéro concernant des écarts de conduite, etc., notamment lorsqu'il est question de fraude et de corruption. Par la suite, l'inspecteur général, au travers de son bureau, vous dira qu'il y a une ferme conviction que, alors que l'on renforce le contrôle, on change les mentalités de l'organisation, que l'on renforce depuis le début jusqu'à la fin ce processus en termes de suivi, d'investigation, etc. Il y a cette idée que l'on fait de plus en plus confiance dans la capacité à suivre ces allégations. Des mesures vont être mises en place et il y a aussi des domaines clés dans nos systèmes qui peuvent être renforcés. Je comprends très bien par conséquent qu'il n'y aura jamais de risque zéro et à nous de vous dire où il y a les points faibles et c'est bien là-dessus que nous allons travailler. Autre observation concernant la déclaration des États-Unis et qu'il faudra souligner. Si des donateurs les plus importants viennent de parler, se sont exprimés, de toute évidence, l'élément ainsi porte sur l'aspect finance. Pour ce qui est de l'humanitaire, bien évidemment, ce sont des informations qui sont soumises pour les équipes, pour la hiérarchie, pour les capitales, pour votre présence à l'étranger. Eh bien, je dirais que c'est ce qui nous aide considérablement. Je ne saurais trop insister. Tout le débat ces 4 derniers jours, et en particulier à l'occasion de la discussion ce matin montre précisément le rôle important que vous jouez en ce qui concerne la diplomatie et des partenariats solides. Des questions ont été posées par le Canada quant à la façon dont on pourrait bâtir une capacité dans des secteurs clés, notamment en ce qui concerne le CRRF et comment nous allons utiliser l'évaluation et l'analyse. Je suis heureuse de pouvoir dire que nous sommes pratiquement près du système des services d'évaluation. Eh bien, c'est un étroit partenaire. Daniel Andrés et son équipe tentent de mesurer la façon dont nous avançons dans la mise en œuvre de ce cadre, en essayant de détecter les différences, en étudiant les cas particuliers parmi les 15 qui ont été débattus lors des travaux de cette semaine, comment nous mesurons l'impact et ensuite comment on transforme fondamentalement l'organisation, ce qui s'inscrit très bien avec les autres éléments que nous abordons, notamment la planification stratégique, la mesure des résultats, la mesure de l'impact, etc. Je ne puis vous dire très précisément quels seront les secteurs dont il est question parce que ce travail est en cours, mais faites-nous confiance, l'équipe d'évaluation est vraiment associée à ce processus. Des questions ont été posées en fait une recommandation de la part de la Norvège pour ce qui est de la collaboration avec d'autres institutions. Je suis ravie de vous dire qu'en novembre, je l'avais dit au comité permanent il y a quelques semaines, le portail partenaire commun des Nations Unies que nous avons entrepris avec le FNUAP montre un des exemples de collaboration avec d'autres institutions en ce qui concerne les partenariats. C'est ce qui nous facilitera la tâche pour les amis des ONG, notamment. C'est ce qui sera plus facile lorsqu'il s'agira de travailler avec les partenaires avec nous. Il n'est pas nécessaire de s'adresser à chaque institution séparée, de jeter un coup d'œil sur chaque boîte mail. Mais c'est un simple exemple parmi les nombreux que je pourrais citer, mais qui me paraissait utile de signaler dans ce contexte. Nous nous félicitons aussi du fait que toutes les délégations se sont centrés sur le travail que nous accomplissons en termes d'intégrité et bien sûr d'écart de conduite. Nous allons continuer à travailler là-dessus. Nous étudions la question depuis plusieurs années, mais nous allons renforcer nos efforts comme par le passé. Je crois que vous avez tous parlé par ailleurs de la gestion du risque 2.0. Avec votre appréciation, les déclarations étaient détaillées. En tout cas, nous pouvons vous donner un complément d'information concernant les efforts que nous déployons. Il ne s'agit pas de se substituer aux fonctions clés d'une opération. Il ne s'agit pas de faire un travail de contrôle, de respect ou de contrôle de projet ou de financement. Pour ce qui est des opérations, c'est plutôt d'accompagner les cadres de façon à renforcer l'opération et permettre le renforcement de la mise en œuvre du programme. C'est en quelque sorte une façon d'injecter des ressources temporaires. J'aurais tendance à être d'accord, cela va de soi, avec le représentant de la Norvège. Nous devons continuer à multiplier nos efforts pour élargir la base des donateurs et nous allons certainement vous implorer, enfin surtout ceux qui l'envisagent mais qui ne l'ont pas encore fait, pour vous inviter à être plus nombreux à le faire. Et puis il y a aussi la qualité des contributions. Pour revenir à ce qu'a dit le haut-commissaire lundi, la déclaration faite par l'Allemagne en ce qui concerne les opérations sous-financées de l'Afrique, le soutien qu'il a été possible d'apporter aux opérations qui n'auraient guère été possible s'il n'y avait pas une grande quantité de ressources non affectées de la part des donateurs présents dans cette salle et du secteur privé, j'ajouterais. Les 45 millions dont j'ai parlé, c'est une grande partie des ressources non affectées. C'est grâce à ce mécanisme que nous avons pu financer certaines des opérations, notamment sur le continent africain, mais pas exclusivement, ce qui est vraiment un soutien précieux. Le représentant des Royaumes-Unis a posé plusieurs questions. Concernant